Nous sommes au Salon du Livre et des Arts de Figueroa, dont c'est la 8e édition, parrainée par Thierry Arquet, donc qui nous réunit autour des livres, des arts, des livres, beaucoup de livres cette année. Et je suis avec Jean-Philippe Martin. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Marie-Agnès.
Donc là, je vois que vous écrivez, c'est autour d'une thématique, c'est plus le monde agricole.
Oui, effectivement, sur les agriculteurs ou les paysans, comme ils aiment se définir eux-mêmes, qui pratiquent un peu différemment, on va dire.
Voilà. Alors moi, au départ, je voulais vous poser cette question. Pourquoi vous intéresser? Je me suis dit, peut-être ce monsieur est issu du monde de l'agriculture, du monde paysan, ou peut-être même lui-même paysan.
Non, pas du tout. Je ne suis pas issu du monde paysan. Par contre, j'ai fréquenté longtemps des agriculteurs du Sud Aveyron. La mère de mes enfants est issue de ce coin et du Sud Aveyron. Et mon beau-frère est actuellement agriculteur dans le sud, vers Sainte-Afrique.
Donc vous avez une formation d'historien, si j'ai bien compris. Et vous vous êtes penché sur cet univers
Oui, écoutez, en allant dans le sud d'Aveyron pendant des années et des années, j'ai, en lisant la presse locale Midi Libre, découvert un personnage qui s'appelait José Beauvais, dont on parlait même bien avant l'affaire du McDo de Millau de 1999. Voilà.
Donc, vous avez plusieurs... ce sont des... Comment vous diriez? Ce sont des études? Comment vous définiriez vos livres?
Des études historiques, on va dire, soit sur... l'histoire de la Confédération paysanne, soit sur l'histoire des pratiques agricoles différentes depuis les années 1960.
Donc celui-ci est paru en... C'est le plus ancien, 2005.
Voilà. Le premier, c'est un peu l'histoire des courants qui ont donné naissance à la Confédération paysanne en 2005.
Je crois qu'on... Je ne sais pas si on pourra continuer. Alors, donc vous revenez sur l'historique de...
Oui, en fait, l'idée, c'est de voir comment un certain nombre de paysans ont rompu avec la pratique agricole majoritaire et avec le syndicalisme agricole majoritaire, la FNSEA, à partir, petit à petit, à partir des années 1960, dans l'Ouest, un peu dans le Massif central, jusqu'au début des années 2000.
Et le deuxième, alors celui-ci s'appelle ?
Histoire de la nouvelle gauche paysanne.
Et il est paru aux éditions ?
La découverte en 2005.
Et qu'on peut trouver...
En librairie, s'il n'y est pas, il suffit de le commander. Et la découverte se fait un plaisir de l'envoyer.
D'accord. Bon, je crois qu'elles sont assez... Enfin, moi, je les connaissais, les éditions de la découverte. C'est quand même... Elles ont un renom. Dites-moi, le deuxième, 2012, je crois.
Alors, en 2017, il y en a un sur qui s'appelle « Les contestations paysannes dans les années 68 ». L'idée, c'était de montrer que dans le Languedoc, Roussillon, en Bretagne, dans le Grand Ouest et dans d'autres régions, il y avait aussi des contestations qui n'avaient pas été seulement ouvrières, étudiantes ou d'employés dans les villes, mais aussi dans les campagnes.
Et vous avez également un... Alors celui-ci, toujours aux éditions La Découverte ?
Non, celui-là, celui de 2017 à chez l'Harmattan. Et le tout dernier, c'est les éditions Champ-Vallon. Qui s'appelle ? Attendez. Des paysans écologistes. Là, c'est plus centré sur les paysans qui ont changé de pratique agricole à partir des années 1950-60. Petit à petit, changement des pratiques agricoles, soit qu'ils passent en bio, soit qu'ils adoptent des modèles moins productivistes, malgré les politiques agricoles, des gouvernementales ou de l'Union européenne, qui favorisent toujours, contrairement à ce qui est dit, favorisent toujours les plus grands.
Oui, malgré les pressions et au niveau des engrais, au niveau des graines sélectionnées, hein, je crois qu'il y a vraiment un diktat quelque part.
Oui, justement là, c'est ceux qui essaient de résister... Et avoir soit des semences paysannes, c'est-à-dire qui ne soient pas produites par des semenciers, soit qui essaient de diminuer, soit de supprimer complètement tout ce qui est engrais chimiques ou produits chimiques de synthèse, hein, en le diminuant ou en le supprimant, soit en bio, soit pas en bio, soit même parfois en biodynamie, et qui changent de modèle. tout en essayant de vivre de leur métier, ce qui est quand même la moindre des choses.
Donc là, vous évoquez l'agriculture raisonnée ou je me trompe ?
C'est pas tout à fait l'agriculture raisonnée, c'est plutôt le bio ou l'agriculture, les alternatives agricoles.
Alternatives. Mais écoutez, merci de nous avoir présenté donc votre travail.
Merci à vous.
Et de nous avoir parlé de cette évolution au niveau du monde agricole.
Oui, eh ben écoutez, je vous remercie.
Merci, merci, à bientôt à la radio. Au revoir Jean-Philippe, au revoir Jean-Philippe. Nous sommes toujours place Roger Salengros à Montpellier, Salon du Livre et des Arts de Figueroa, 8e édition. Et je rencontre Florence Tolozan, que j'avais déjà rencontrée autour de ces deux romans.
Bonjour.
Bonjour Florence, alors quel est le premier roman, le premier des deux que vous ayez écrit ?
La Chinoise du tableau est mon premier roman.
Et vous êtes allée en Chine, je crois, vous avez exploré le monde de la Chine pour pouvoir écrire ce roman ?
Oui, la Chine est une passion depuis toute petite, donc dès que j'ai pu, j'ai étudié le chinois pendant mes études et je me suis rendue en Chine dès que j'ai pu.
Et donc vous êtes appuyée sur des personnages réels ou tout est fiction ?
Alors tout est fiction au niveau de l'histoire et des personnages, les lieux, bon, à part les lieux, voilà, les lieux qui sont réels et qui sont issus de mon vécu et des documentations que j'ai pu faire pour prolonger mes voyages.
Et qui est cette Chinoise du tableau ?
Alors la Chinoise du tableau est un personnage fictif, c'est l'histoire d'un couple qui trouve un tableau dans un vide-grenier. Au premier plan de ce tableau, il y a cette Chinoise et c'est elle la héroïne de cette histoire.
Et donc, je crois que vous avez rencontré un bon succès dans ce roman.
Oui, je suis agréablement surprise parce qu'il est maintenant traduit aux États-Unis en anglais et en bilingue anglais-français. Et bientôt en Allemagne aussi, chez un éditeur allemand spécialisé dans la littérature qui concerne la Chine.
Et vous voyagez beaucoup en France pour faire vivre... Diffuser votre écriture ?
Oui. Enfin, bon, je reste quand même principalement près de chez moi, mais ça m'arrive un petit peu d'explorer d'autres régions pour rencontrer de nouveaux lecteurs.
Donc là, c'est aux éditions ?
M+ Éditions, qui est un éditeur lyonnais.
Et également en collection Pocket, si j'ai bien compris.
Oui.
Et alors, le deuxième roman, il a été écrit quand ?
Il est sorti en novembre 2022, là, il a 6 mois.
Ah, il est tout récent, donc.
Oui, il est comme nos jours.
Et alors, il se déroule ?
Alors lui, il se déroule principalement à Bali, en Indonésie, et à Lombok, une île qui se trouve tout proche de Bali.
Vous êtes allée ?
Oui.
Donc vous avez commencé à vous imprégner de la culture, de la civilisation ?
Oui, et puis quand j'y suis allée, je ne pensais pas du tout écrire un roman, puisque la Chinoise du tableau n'était pas encore sortie. Donc je n'ai pas pris de notes, rien. Donc ça m'a obligée au retour à me documenter, à essayer d'en apprendre encore plus sur cette culture qui est encore méconnue, la culture balinaise.
Et ça traite d'un personnage féminin également ?
Oui, d'un personnage féminin, alors que c'est vrai que dans la Chinoise du tableau, il y avait aussi un couple, hein, en plus de cette Chinoise. Là, c'est l'histoire d'une femme qui, après une rupture assez douloureuse, décide de partir au gros du roi. Et en achetant un panier sur la plage, elle découvre dans un trou entre la doublure et le tressage, un mot qui a été déposé par la personne qui a fabriqué le panier en Indonésie. Donc ça va l'inciter à partir puisqu'elle n'a plus rien à perdre. Et là-bas, elle va rencontrer un chaman qui va lui révéler un secret de famille.
C'est un peu une bouteille à la mer.
Voilà, en quelque sorte.
Ce roman est publié ?
Toujours chez M+ Éditions.
Voilà, donc écoutez, ben, on vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à l'écho de nos jours puisque la Chinoise du tableau a déjà un bel essor, si j'ai bien compris. Merci Florence.
Merci.
Toujours du Salon des Arts et des Livres, à Figueroa, place Roger Salengros. On a de la chance ici, on est légèrement à l'ombre d'un platane, avec Marc-Fabien Bonnard. Bonjour.
Bonjour, avec grand plaisir.
Alors Marc-Fabien Bonnard, vous avez édité de nombreux recueils, enfin il me semble quand même alors, plusieurs recueils.
Il y a un peu de choix, parce qu'en fait, le premier roman, c'est un récit autobiographique, qui s'appelle « L'homme qui aimait les chansons ». Et on me demandait toujours pourquoi vous écrivez des chansons, quelle est votre source d'inspiration. Alors, je parle d'anecdotes, de rencontres, et qui ont donné naissance à ces chansons. Alors, pour Dalida, pour Régine, pour Mireille Mathieu, etc., ou Annie Cordy. Et c'est, en plus, je parle beaucoup au cinéma également, je fais un hommage à François Truffaut, et puis un tournage que j'ai fait avec... M. Jacques Rosier à Béziers il y a quelques années. Malheureusement, il vient de nous quitter il y a 2-3 mois. Donc c'est un livre pour les cinéphiles, mais pas uniquement, et beaucoup pour la chanson française. La préface est de Michel Rivegauche, qui était le parolier de Édith Piaf, qui a fait entre autres la célèbre chanson « La foule ».
Mais il me semble que vous étiez dans la diffusion de spectacles. Vous travailliez en lien avec les chanteurs, non ?
J'ai fait un peu de direction artistique également, oui, c'est vrai. Mais disons que je me suis diversifié. C'est-à-dire qu'après, j'ai écrit des romans, effectivement, des recueils de poèmes, et puis une pièce de théâtre qu'on va reprendre à Jacques Coeur, qui s'appelle Sarah Grette.
Oui. Ça sera quelle date ?
Mais le 3 mai. Le 3 mai. Et en fait, bon, il va y avoir d'autres lieux, évidemment, où elle va se donner. C'est une pièce qu'on avait créée à Toulouse, qui a eu un gros succès. Et en fait, c'est les confessions de Sarah Bernard à sa petite-fille. Parce que Sarah Bernard a demandé à sa petite-fille de lui écrire ses mémoires après qu'elle ait déjà écrit ses mémoires à titre posthume. Et c'est ses confessions. En même temps, c'est beaucoup de charme parce que c'est le seul moment où Sarah Bernard consacre beaucoup de temps à sa petite-fille comme elle en consacrait à son fils. Elle a des rapports avec sa famille d'une gentillesse enfin, extraordinairement agréable. Et ce n'est pas la Sarah Bernard autoritaire, rebelle, mais à travers un comédien qui apparaît dans la pièce, elle va se montrer quand même comme la grande Sarah Bernard, avec ses tirades, avec son côté rebelle et implacable.
Alors je vois que vous étiez parolier, que vous avez enregistré également des chansons à votre actif.
Alors moi j'ai été chanteur chez Barclay et chez Vogue, et j'ai chanté à l'Écluse entre autres, là où j'ai pu rencontrer un peu Barbara. Et donc j'ai fait une thématique il n'y a pas longtemps à la médiathèque de Latte sur Barbara, en faisant une chanson en hommage à Barbara, qui a été interprétée par Louise Perret, que j'ai découvert par hasard, et qui est vraiment exceptionnelle. Voilà.
Et là, donc, dans ce recueil, je crois que c'est le dernier paru, Ciel à ciel. Alors, non, ce n'est pas le dernier, Les Amours ivres. Mais vous parlez également quand même pas mal des chanteurs, vous leur dédiez des poèmes.
Oui, parce que, disons que, bon, moi, on a été nourris par ces chanteurs, que ce soit Barbara ou Charles Aznavour, et je trouve que c'est quand même le moindre des choses de leur rendre hommage, parce que, de toute façon, ils nous ont accompagnés pendant 6 décennies, quoi.
Voilà. Et alors, Les Amours ivres, donc vous disiez, c'est le dernier recueil.
Alors, c'est un peu les péchés de jeunesse, c'est un peu l'amour... vous savez, à cette époque, on voyait une personne, elle venait avec sa brosse à dents et elle restait 3 mois ou 5 mois. Donc voilà, c'est cette espèce de légèreté des années 70, 60, et avec le côté des Trente Glorieuses, quoi, la légèreté de cette époque.
Donc vous publiez donc dans différentes maisons d'édition, si j'ai compris.
Hein. Ben, c'est-à-dire que deux simplement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu cette édition... c'était édition du bout de la rue, et puis malheureusement, bon, ils ont un peu périclité. Et après, c'est les éditions du bout de la rue qui m'ont publié celui-là, Une douceur incessante. J'avais celui-là aussi. Et donc, non, il y a une continuité. J'aime pas changer d'éditeur, parce que je trouve que c'est bien de se connaître et de s'apprécier, voilà.
Alors, et sur la forme, il y a des poèmes, il y a des nouvelles ?
Des nouvelles, oui. Alors, les nouvelles, là, je ne les ai pas aujourd'hui, mais et souvent, les gens me disent « Oh, il est beau, votre titre, Les Vagues. » C'était « Les Vagues embrassent les châteaux de sable. » J'ai quand même répondu « Bah oui, mais j'espère qu'il n'y a pas que le titre qui va vous plaire. »
Et vous avez... il y a des romans également ?
Un roman, oui, c'est Une douceur incessante. C'est un roman, en fait, sur la pérennité des amours, mais à travers, effectivement, toutes les phases qu'on traverse. Et on a toujours l'impression qu'on a perdu du temps à aimer quelqu'un. Et en fait, on passe évidemment tous par les mêmes phases, quoi. Voilà. C'est pour un petit peu mettre du baume au cœur des gens qui se sentent toujours écartés d'un autre. Et,
oui, un petit peu déçus par une histoire amoureuse.
Qui vivent mal leur histoire amoureuse.
Merci Marc Fabien Bonnard.
C'est moi qui vous remercie. C'est un beau soleil aujourd'hui.
Voilà, et on n'a pas trop chaud, un petit peu de vent.
Sympathique.
C'est agréable.
Agréable, vraiment.
Merci de partager avec nous toutes ces impressions et tous ces souvenirs. Merci Marc Fabien.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand, où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand, et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans la bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Oeil. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon vole.
À Figueroles, place Roger Salengro, et avec Marcel Camille.
Bonjour.
Bonjour Marcel. Alors Marcel, il y a les revues, il y a votre poésie publiée. Alors on va commencer par Ombongi, bien entendu.
Oui, Ombongi. Alors Ombongi, c'est tout un univers. C'est donc les auteurs, la poésie, le magazine avec les auteurs en herbe, les jeunes auteurs, donc les jeunes que j'accompagne en atelier d'écriture, mais aussi accompagnés par d'autres structures qui proposent des animations autour de la littérature.
Voilà. Des belles illustrations également.
Très belles illustrations. On a des plasticiens, par exemple Sandra Ouedraogo, des musiciens aussi, comme Tony Savannah. Voilà.
Et vous faites des portraits, vous réalisez des portraits.
Exactement. L'idée, c'est de faire vraiment le lien entre les artistes qui sont sur le plan local, en Occitanie, mais aussi un peu partout ailleurs, donc aux Antilles, en Afrique, comme au Cameroun, voilà.
Donc cette revue, elle est née il y a un an à peu près.
Un an à peu près, voilà, en 2022, avec le premier numéro hiver dans Kanza. Donc bon, le rythme, c'est censé sortir tous les 3 mois. Mais bon, j'avoue que c'est un peu compliqué, donc je le fais un peu avec, disons, les moyens du bord.
Mais rythme assez soutenu, puisque nous avons 3 numéros, donc le deuxième, c'était un numéro.
Voilà. Au numéro de printemps, c'est bien ça, voilà.
2022.
Le numéro suit une saison particulière, ce qui influe justement sur aussi la couverture, le ton des lumières, et puis voilà, tout ce qui est symbolisé sur...
Et le dernier qui est très beau, j'ai beaucoup admiré, ils sont tous magnifiques, mais alors je l'ai encore plus apprécié celui-ci.
Oui, c'est un autre ton. Justement, j'allais sur l'été. Après, les questions sont toujours là. Je présente les structures qu'on retrouve, par exemple, à Mayotte. Ce lien, justement, avec l'Afrique, avec les femmes, les traditions des femmes qui exploitent le sel depuis des milliers d'années, dans la tradition des Coco Shingo. Et puis, il y a la vie locale à Montpellier avec l'association Esprit Libre, qui est à la Mosson, qui fait la promotion de la lecture auprès des jeunes, de quartier et tout. C'est super.
Et le sel, je suis allée au lac Redba en Sénégal avec l'extraction du sel également. Donc, ça a fait quand même écho.
Voilà. Il y a pas mal d'institutions comme ça qui existent qu'il faudrait en fait retrouver, apprendre à découvrir. En fait. Voilà.
C'est un travail artisanal harassant, quoi. Parce que je me souviens, c'est le Guinéen qui vient avec son panier, qui extrait le sel, les femmes qui le portent sur la tête.
Voilà. C'est un état d'esprit, un choix de vie aussi. Voilà, en tout cas pour les Mama Shingo de Mayotte, c'est une institution. Voilà, c'est une institution et féminine en plus, qui se transmet de mère en fille. Et Bon, c'est vrai qu'on retrouve cette tradition un petit peu dans l'est de l'Afrique aussi, mais c'est vraiment des zones localisées. Voilà, et c'est particulier, c'est beau à voir.
Oui, c'est tellement insolite. Enfin, nous n'avons jamais vu ce genre de choses. Pour nous, c'est tellement dépaysant, mais je ressens la douleur de la personne quand même, ce travail physique épuisant. Je suis quand même dans l'empathie quand je les vois travailler. Alors là, prier mes Césaires, parlez-nous-en, donc écrit noir encre rouge.
Alors, écrit noir encre rouge, c'est un de mes écrits libérateurs, en tout cas à mon niveau, parce que c'était une façon aussi d'exprimer tout ce que je portais en moi, de blessures et de regards sur ce qu'est le Congolais, la Congolaise, ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui avec la France-Afrique. Voilà, c'est un peu tout ça.
Une colère que vous...
Une forme de colère, mais une colère... La colère, c'est un sentiment, de toute façon, qu'il faut exprimer.
Libératrice, le fait de la dire, on sort de cette colère.
Voilà, parce qu'il y a une forme d'espérance, on aspire à autre chose, on veut du meilleur. Voilà, l'idée, c'est de regarder ça, faire face, savoir faire face.
Et je sais qu'on vous retrouve sur scène régulièrement, vous avez des projets, pouvez-vous nous en parler?
Oui, bientôt, je serai, par exemple, le 21 octobre à la bibliothèque de Carnot, avec l'association Terria Solidarité. Je ferai une présentation de Écrit noir encre rouge, justement. Voilà, et donc je ferai une petite performance là-bas, avec donc lecture commentée. Et il y aura aussi une exposition autour. Donc, ce sera une sorte de semaine africaine. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que voilà, je présenterai un peu tout ce que je fais.
Bon, on espère vous retrouver, Marcel Camille. Merci.
Merci, un grand plaisir.
Toujours au Salon du Livre et des Arts, Figueroa, place Roger Salengro, avec Françoise Abbeau. Françoise Abbeau, auteur qui écrit depuis de nombreuses années.
Bonjour. Depuis 50 ans, presque. Oui, presque.
Et vous avez publié de nombreux recueils, il me semble.
Plus de 55 recueils publiés. Ouais.
Alors là, nous allons parler de trois recueils qui ont été publiés au Cap de l'Étang Édition. Alors, le premier que vous avez publié dans cette édition, c'est L'accomplissement amoureux.
Oui, L'accomplissement amoureux, c'est une réalisation qui me plaît bien parce que c'est à la fois un itinéraire amoureux et spirituel, les deux réunis.
D'accord. Œuvre de maturité conservant toute la fraîcheur de l'étonnement. Il est question d'une voie que l'on emprunte vaillamment aidée par l'ardeur du désir. De la poésie.
Poésie d'amour réalisé.
Avec des illustrations.
Avec des photos qui sont mises en vis-à-vis par l'éditeur. Et je trouve qu'il a fait un très bon choix d'éditeur. Voilà.
De très belles photos. Nuit somptueuse, source Bingo Naranjo. Ensuite, donc, c'est peut-être celui-ci, Poésie Chirale.
Poésie Chirale, en fait, c'est un livre que j'ai aussi dédié non seulement à Carole, mais également à mes parents. Et la chiralité, c'est une notion de chimie. Mon père était chimiste, disparu cet été. Voilà, donc ça a pris encore une dimension différente.
Donc, publié donc, au Cap de l'Étang Édition, et c'est assez récent.
2022.
Et là, alors, Dictionnaire poétique de l'urbex, pouvez-vous nous en dire quelques mots?
Un dictionnaire poétique de l'urbex, c'est un livre qui suit les itinéraires de l'exploration urbaine avec des photographies captées par Fabien Le Bourgeois qui est allé dans des lieux complètement délaissés, en perdition, repris par la nature et cachés et non dévoilés. Et donc là, on permet de voyager dans une intimité qui a existé et une intimité à renaître.
Avec des brefs poèmes.
Avec des brefs poèmes qui sont... postérieure aux photos elles-mêmes, puisqu'il y a eu un choix de photos, et après, à partir de ça, des poèmes qui ont été conçus dans cette perspective de ce livre-là, Dictionnaire poétique de l'urbex.
Autour des lieux.
Des lieux d'urbanisme délaissé, voilà.
Je vous laisse en lire un.
Salon, bibliothèque du salon. Une vie peut se résumer à ceci. Quelques victoires et une érudition. Le reste est d'aller plus loin, plus haut et encore.
Et merci Françoise Abbeau. Alors comment est-ce qu'on peut se procurer vos recueils?
Alors, le plus simple, c'est d'aller dans votre libraire préféré. Et mon libraire préféré, c'est Sorams à Montpellier. Voilà.
Bon, merci François, on n'y manquera pas.
Merci beaucoup, bonne émission.
Alors ici à Figueroles avec Michel Sala. Bonjour Michel Sala.
Bonjour.
Alors vous éditez des romans, si j'ai bien compris, romans initiatiques, vous notez.
Oui, c'est un roman qu'on a qualifié de roman initiatique qui décrit le parcours d'un personnage qui me ressemble beaucoup. Et ce personnage, ce narrateur, a du mal à démarrer dans sa vie et même assez longtemps dans sa vie, même marié, divorcé, avec deux enfants. Il estime qu'il n'a pas été mis le pied à l'étrier, on va dire. Et finalement, en s'intéressant à certains grands textes du patrimoine de l'humanité, comme l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui est stérile au départ, la psychanalyse à laquelle il va avoir affaire, les textes d'Hésiode, qui est le deuxième grand poète grec après Homère, il confronte finalement son expérience personnelle à celle de grands personnages mythiques, mythologiques ou religieux. Et à la suite de ça, d'un événement qui sera sa propre initiation à l'âge de 50 ans, il va finalement retomber un petit peu en lui-même, même si l'expression « être soi-même » c'est un peu normal, ou on n'est jamais soi-même, mais il va finalement arriver à vivre sa vie, quoi, à l'âge de 50 ans.
Et en fait, il recherche des causes, comme vous disiez, vous parlez des guerres, des déchirements dans les familles, c'est cela?
Au départ d'une vie qu'on peut qualifier de difficile, on cherche toujours des raisons, des causes. Enfin, le personnage, initialement, avait tendance à accuser ses parents, et plutôt son père, de carence. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que là n'est pas la question. Que c'est en lui-même qu'il doit rechercher les causes et des solutions. Et voilà, donc, je pense que le livre peut avoir un intérêt comme... D'ailleurs, un des sous-titres du livre, c'est « La voix, V-O-I-E, entre mythe et réalité ». Et donc, la voix, chacun doit trouver sa voix. C'est un peu le leitmotiv du livre.
Et en parlant de voix, vous êtes chercheur scientifique en chimie organique et vous écrivez donc autour des mythes.
J'écris autour des mythes et de la religion parce que... Étant non-croyant, étant athée, je pense que les grands textes religieux, quelle que soit leur origine, leur qualification, ont des origines justement dans les mythes et dans les rituels. Et d'ailleurs, mon livre « Trans de l'initié » contient l'exemple d'un peuple d'Amazonie, décrit par Philippe Descola, le grand anthropologue français. Et on trouve dans ce peuple de Jivaro des exemples d'initiation qui sont très parlants et qu'on peut rapprocher de certains textes bibliques, par exemple.
À cet effet, vous disiez que vous aviez appris l'hébreu pour pouvoir...
J'ai fait 3 années d'hébreu biblique et 2 années de grec biblique aussi pour pouvoir aborder... assez difficilement, mais aborder des versets de la Bible hébraïque et des évangiles, puisque ces textes sont en hébreu pour la Bible, les textes originaux en hébreu pour la Bible et en grec pour les évangiles.
Et vous êtes donc intéressé à la culture des Indiens, Jivaro ?
Oui, parce que l'ethnographie, c'est-à-dire les comptes rendus d'ethnographes genre Lévi-Strauss, Descola, Godelier, etc., ces gens-là, dans la description qu'ils font des peuples chez qui ils ont vécu, décrivent des rituels, et ces rituels éclairent, à mon avis, beaucoup des pratiques religieuses actuelles et de la pensée, qu'elles soient classiques, anciennes ou modernes.
Donc votre livre, il est publié dans quelle maison d'édition ?
Alors, le dernier, le « Trans de l'initié » est publié chez les Impliqués éditeurs, qui est une création de l'Harmattan, chez qui mon premier livre a été publié il y a 8 ans. Dieu ou l'économie du sang, qui était mon premier livre.
C'était un livre de réflexion autour de la religion.
C'était un livre sur une lecture du deuxième livre de la Torah, qui s'appelle l'Exode, qui décrit la saga de Moïse et du peuple hébreu et de la sortie de l'Égypte et de l'esclavage pour ce peuple.
Donc, si on veut retrouver vos recueils, on va sur le site de l'éditeur.
Voilà, on peut aller sur le site de l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est L'Harmattan. Il faut taper le nom de Michel Salah chez L'Harmattan ou chez les impliqués éditeurs. Une autre solution, c'est d'aller les commander en librairie, chez Sorams, par exemple, ou ailleurs à Montpellier, et de leur demander de les commander. Et vous éviterez des frais de port, éventuellement.
Merci, Michel Salah.
C'est moi qui vous remercie.